Salut François, comment vas-tu?
Ça va très bien, Dan, toi-même.
Oui, merci, ça va bien. Je débuterai avec, je te dirais, une job plate. La job d'analyser ensemble la fameuse décision de l'Association des joueurs de ne pas rouvrir la convention collective. Je pense qu'il y a des amateurs de hockey qui ont suivi ça de loin un peu dans les derniers jours, dernières semaines. Puis il y en a qui n'étaient pas trop intéressés par ce dossier-là. Mais je trouve ça quand même très important, ce qui s'est passé. On a appris hier que... on allait avoir du hockey pendant 3 ans. Puis, sais-tu quoi? C'est pas juste parce que je fais des poules de hockey, là. J'aurais été déçu que l'Association des joueurs décide de rouvrir la convention. Pas parce qu'ils auraient pas eu de bonnes raisons, mais je me serais dit, oh non, pas encore un conflit de travail. Il me semble qu'on en a eu beaucoup depuis une vingtaine d'années ou depuis l'ère Bettman, tiens, je vais dire ça comme ça.
Oui, puis bien, ce que tu mentionnes, je pense que c'est probablement ce qui ressort des réunions des joueurs entre eux, là, tu sais, de se dire à un moment donné, et oui, il y a beaucoup de choses qui nous agacent. T'sais, est-ce qu'on est malheureux pour autant ou mal en point? Je pense pas. Qu'est-ce que les fans penseraient si on se rendait jusque-là? Je pense que c'était là la grande discussion. Puis évidemment, le point majeur, Dan, a toujours été ce qu'on appelle l'escrow, là, l'argent qu'on prend sur la paye des joueurs pour mettre de côté.
Oui.
On aurait voulu faire baisser le pourcentage, mais je pense qu'on s'est rendu compte que ça aurait été une bataille où on aurait probablement peut-être été chercher quelques dollars, mais qu'au niveau de l'opinion publique, on aurait été totalement perdant. Moi, je trouvais que c'était une excellente nouvelle, puis c'est une bonne nouvelle pour le sport en général, Dan, parce que le baseball, ça s'en vient aussi. Puis les sports principaux avec le basket et avec la NFL, on a besoin aussi de s'assurer que tout le monde est en santé, qu'il n'y a pas de conflit de travail à l'horizon. Puis je pense que dans ce dossier-là, surtout pour la Ligue nationale, ça s'est bien passé. Le baseball majeur, ça regarde bien. Donc, on pourrait être une période quand même assez longue sans qu'on ait d'arrêt de travail dans le sport professionnel.
OK. Le Canadien a gagné 4-2 hier contre les Devils. Évidemment, je ne partirais pas en peur de façon positive parce qu'à l'époque, est-ce que c'est l'année dernière, François, ou l'année précédente où le Canadien avait perdu ses 6 premiers matchs préparatoires?
Je pense qu'il y a 2 ans, mais c'est pas l'année où, dans les dernières années, quand Carey Price avait dit aux gens de chiller un peu. Tu te rappelles de ça, premier match de la saison, puis Price s'était fait huer un match pré-saison. Et il avait dit aux partisans via les médias, là, chill out, là, prenez ça, relax.
Ouais.
Et je sais pas si dans ces dernières années-là, mais écoute, Dan, peu importe le sport, que tu finisses 0-8, 8-0, tu sais, les matchs préparatoires, ça n'a aucune valeur. Mais je pense que t'es mieux d'avoir des défaites à ta fiche puis des jeunes qui, tu sais, qui démontrent de belles choses que le contraire. Fait que le résultat est très secondaire.
C'est ça, exact. T'as raison, c'est il y a 2 ans. Il y avait eu un match au Centre Vidéotron d'ailleurs. 0-6. Je pense que le Canadien avait gagné ses 2 derniers matchs préparatoires pour finir 2-6. Et l'année de saison régulière, ça avait été la catastrophe. Il y a 2 ans, on s'en souvient. Le Canadien n'avait même pas passé proche. Ça leur a donné le 3e choix. Et ils ont pris Jesperi Kotkaniemi. Toi, parmi les jeunes qui sont au camp, lequel t'intrigue le plus? Après ça, je vais te dire, moi, lequel m'intrigue le plus?
Ouais, ben moi, je n'ai pas le choix de te dire que ce que je regarde, c'est est-ce qu'il y a un jeune défenseur qui peut percer? Parce que, tu sais, oui, il va Paling, Suzuki, toute la discussion, mais j'aime beaucoup, j'ai toujours aimé des gars comme Cale Fleury, comme Josh Brooks, je le connaissais un peu moins, je le connaissais plus de statistiques, parce que Brooks, c'est un défenseur qui est excessivement offensif, 75 points l'année passée dans le hockey junior, mais moi, je pense que Fleury pourrait peut-être être ta surprise en arrière, le gars qui peut, venir te donner un coup de pouce, qui a joué une saison complète à Laval, qui semble être plus prêt, parce que il y a un poste qui aurait dû appartenir, Dan, je pense, à Noah Jolson.
Oui.
S'il avait été en santé l'année passée, encore là, ça a l'air difficile au niveau de la santé. Et je pense qu'il est peut-être un pas en arrière. Donc, je pense que Fleury, pour moi, c'est le joueur que je regarde comme celui qui pourrait surprendre puis se tailler un poste dans la défensive. Puis il y aura évidemment ce qui va se passer à l'avant avec Paling puis avec Suzuki et compagnie. Mais je pense que défensivement, on a besoin d'un défenseur droitier solide qui peut venir aider cette défensive-là. Donc j'ai hâte de voir s'il y a peut-être un jeune qui va réussir à se démarquer, là.
Toi, tu fais partie des gens comme moi qui doutent un peu du plan jeunesse du Canadien parce que Price et Weber prennent de l'âge. Price a eu 32 ans cet été. Weber a 34, et c'est un drôle de mélange de dire qu'on va être bon dans 3-4 ans, alors que dans 3-4 ans, ces gars-là vont être à la fin de leur carrière. Moi, le gars qui m'intrigue le plus, et là, tu vas me dire, ben là, Dan, d'après moi, si on s'était parlé hier à la même heure, ça aurait pas été lui. Peut-être! Mais tu sais quoi? Dans ma tentative de que le Canadien échange Price, pas parce que je le trouve pas bon, mais de l'échanger dans le temps où il y a encore une valeur, ben, puis je sais que Primo, il a juste 20 ans, là. Mais je vais être intrigué cette année à Laval. Tiens, je vais dire ça comme ça. Je vais suivre le Rocket cet hiver. Kaden Primo, le fils de Keith Primo, hier, oui, il a fait un arrêt magistral qui ressemblait à un arrêt des grands gardiens de la Ligue nationale, mais il a seulement 20 ans, fait que je veux pas faire ce que je reproche aux gens de Montréal puis partir en peur avec lui. Mais sa performance et sa progression m'intriguent dans le sens où, François, il est bon, mais je me demande, il va être bon jusqu'à quelle limite? Est-ce qu'il va être bon jusqu'au point de devenir gardien numéro 1 de la Ligue nationale un jour? J'ai très hâte de voir ça.
Oui, puis c'est un projet qui est devenu très, très intéressant. Puis plus il vieillit, plus il devient bon. Mais ça ouvre la porte. Puis tu sais, écoute, je pense que ça arrivera jamais, Dan, mais ce que tu as mentionné au départ, puis moi, je fais partie de ceux-là, puis moi, je m'en cache pas. Là, je l'aime, Carey Price, je l'aime comme gardien, ouais. Je l'aime comme homme. Mais la situation, peut-être d'ici à 2 ans, là, le temps que Primo prenne de l'expérience, si tu te rends compte qu'il est vraiment aussi bon que tu as espéré, et puis là, tu te dis, écoute, est-ce que je suis encore capable de trouver preneur pour un Carey Price, disons, rendu à 33, 34 ans? Il reste encore, évidemment, quelques années, quelques bonnes années, mais aussi quelques années très, très dispendieuses pour aller te chercher un ou deux joueurs intéressants pour libérer ta masse salariale. Puis, tu sais, tu serais probablement une meilleure équipe là, si tu vas te chercher un ou deux bons joueurs puis tu libères ta masse salariale en plus. Mais je pense que ça n'arrivera pas. Tu sais, sous l'air Marc Bergevin, je serais très, très, très surpris. Mais c'est un peu ce que tu mentionnais avec Primo. C'est un peu la pièce maîtresse parce que, à part Primo, dans l'organisation, on ne peut pas dire que le Canadien est très bien nanti dans les buts. Si jamais ça se passe pas bien pour lui, tu penses que c'est vraiment ton espoir numéro un pour venir remplacer Price à temps plein un jour. Mais j'ai hâte de voir comment il va se comporter cette année parce que ça va être une année très, très, très importante pour lui dans son développement puis dans la valeur qu'on va lui donner dans l'organisation.
C'est un choix de 7e ronde. C'est le fun des grands coups comme ça, des choix éloignés qui deviennent de très bons joueurs. On pense entre autres à Zetterberg et Datsyuk chez les Red Wings. Mais Pécoriné, qui est encore le gardien numéro un des Prédateurs, bien, c'est un choix de 8e ronde de Nashville. Puis je pense qu'Henrik Lundqvist, le gardien des Rangers, est un choix éloigné également.
Oui, puis les premiers que tu as mentionnés, les Russes, c'était une époque où les joueurs européens sortaient pas mal plus loin. Là. On n'était jamais trop sûr si les gars venaient jouer. Puis finalement, on prenait des chances. Puis tu sais, à une époque, il y avait 12 rondes au repêchage. Puis tu sais, des fois, les gens qui aiment ça, là, tu passes ça un peu sur Hockey DB, regardez. Oui, des gars, moi, j'ai un gars comme Claude Lapointe. Là, ça a toujours été un exemple d'un gars de 12e ronde qui a eu une carrière fantastique dans le hockey. Puis évidemment, t'en as des chouettes de première ronde qui n'ont aucune statistique à côté de leur nom. C'est la beauté du repêchage, mais il y a des bons et des mauvais souvenirs pour les partisans des Nordiques là-dedans.
Oui. Ben oui, c'est ça. Patrick Onvis, qui joue à Pittsburgh maintenant, je pense a été le tout dernier choix du repêchage son année à lui.
Ah, c'est assez impressionnant parce qu'il devait être... peut-être qu'il était même déjà parti. Des gens qui ne restent pas jusqu'à la fin à un moment donné, mais ça, c'est assez impressionnant.
Tu sais, parce que on parle d'échanger Price, puis là, je sais que les gens vont dire « Voyons, ça vient de commencer. Comment ça tu veux échanger Price? » Mais l'année dernière, je me souviens d'avoir fait une montée en onde en disant au moment où les Blue Jackets s'enlignaient pour perdre Bobrovsky et Panarin pour rien, c'est exactement ce qui est arrivé. Moi, j'avais dit, choix de première ronde ou peu importe, là, compensation plus Price contre Panarin et Bobrovsky. Dans la mesure où tu t'entends avec l'agent, je pense qu'ils avaient le même agent, François, à moins que je me trompe.
Ah, possible, ça, je peux
Bobrovsky
pas dire,
a changé d'agent, me semble, pour avoir le même que Panarin. Finalement, ils n'ont pas abouti avec la même équipe. On connaît l'histoire. Panarin va jouer avec les Rangers alors que Bobrovsky, le gardien des Panthers. Mais imagine-toi l'équipe de cette année, le premier match hors concours hier. Le gardien Bobrovsky au lieu d'être Price, mais en attaque, t'as Panarin. C'est une reconstruction que moi, je jugeais l'année dernière en accéléré si Bergevin avait réussi à faire ce coup-là.
Mais moi, je suis juste curieux, Dan, de savoir c'est quoi aujourd'hui, à 32 ans, la valeur de Carey Price? Je pense qu'il reste un des meilleurs gardiens au niveau de la cote, hein, de la cote populaire.
Oui.
Mais tu sais, son contrat est quand même un boulet. Là. C'est pas le même contrat que Roberto Luongo à l'époque, là, si on fait des comparaisons.
Mais tu sais quoi? Moi, pour moi, son contrat, c'est pas un boulet, je t'explique. C'est sûr que les équipes qui ont beaucoup d'argent sont pas très bonnes. Fait que les autres, ils veulent pas Price, ils veulent juste essayer de se maintenir. Puis les équipes qui sont bonnes, qui aspirent aux grands honneurs, ben ils ont pas de place sur le plafond. Sauf qu'une équipe qui donne 7 millions à un gardien, c'est pas très compliqué de donner 10,5 à partir de cette année. Il faut que tu regardes ça. Les gens, quand ils focusent sur le contrat de Price, ils disent tout le temps « Il reste 7 ans à 10,5, il n'y a personne qui va vouloir de ça. » C'est faux. Une équipe qui actuellement donne 7 millions à un gardien, il y en a une tonne, ben donner 7 ou 10,5, là, c'est juste changer un défenseur de place. Là.
Ouais, mais en même temps, je me dis, Dan, c'est à ce moment-ci, puis je suis d'accord avec toi qu'à ce moment-ci, quelqu'un qui prend le contrat, il se dit Price encore, probablement, c'est 3, 4, peut-être 5 bonnes années, tout dépendant de la façon dont il vieillit.
Ben oui.
Mais tu sais, si tu fais cette transaction-là dans 2 ou 3 ans, c'est une toute autre histoire. T'as plus la même valeur parce que déjà, le gars a passé son prime, puis là, ça devient pas mal plus difficile d'échanger les 3 ou 4 dernières années de son contrat.
Puis... rendu dans 3-4 ans, s'il n'a pas encore gagné de coupe, et ça va être difficile de croire qu'il va en gagner une. Hein?
Parce qu'à ce stade-ci, je pense qu'on est très réservé, mais j'ai aimé au moins l'ouverture d'esprit dans les dernières semaines, parce que je l'ai mentionné à un moment donné que là, on commence à se rendre compte que la fenêtre est en train de se refermer, même si elle n'a jamais vraiment été très, très ouverte.
Exact.
Donc, ça prendrait au moins un bon début de saison pour redonner espoir, mais je pense pas qu'on peut considérer les Canadiens comme des candidats. S'ils font les séries, je pense que déjà là, ça va être une belle saison.
François, on a appris dans les dernières heures que Mitch Marner a reçu 2 offres hostiles cet été qu'il a refusées pour rester avec les Leafs. Est-ce que tu penses que quand Rantanen, Pointe, Tkachuk et compagnie vont signer, parce qu'il en reste avec Laine et Connor, c'est à peu près les 5 gros noms qui restent, parce que hier, Brock Boeser a signé, Travis Konecny avec les Flyers a signé, ce matin, Brandon Carlo s'est entendu avec les Bruins. Penses-tu qu'on va apprendre que Rantanen a reçu une offre hostile aussi?
Non, ben moi, je suis pas convaincu de ça, parce que je suis convaincu, par exemple, puis je sais pas si on a le droit de le dire, mais à quel point il y a du maraudage plus qui se fait. Là. Probablement que quand on parle d'offre hostile, évidemment, il faut que le joueur le signe. Mais est-ce que c'était formel, officiel, puis l'offre était sur la table? Moi, j'ai des réserves un peu là-dessus. Là. Je pense que il y a probablement bien les équipes. Tu peux appeler l'agent Rantanen puis avoir juste une petite discussion pour savoir est-ce que ça vaudrait la peine si, pour pas te rendre à faire tout le processus puis te faire dire ben le gars la signera pas. Je pense que tout le monde s'informe par rapport à ça, mais je sais pas si avec les réseaux sociaux puis tout ce qu'on a aujourd'hui, est-ce qu'on va connaître l'identité des équipes à un moment donné, est-ce que les montants vont sortir aussi pour nous donner une idée. Ça j'aimerais beaucoup savoir qui est impliqué là-dedans, mais mets-toi juste Dan dans la peau d'un gars comme Ao là qui a accepté une offre hostile là.
Oui.
C'est pas le fun là, quand tu reviens pareil. Il y a un petit, tu sais, il y a quand même un malaise qui s'installe. Là. T'as mis ton organisation dans le trouble avec un gros bonnet à la signature, puis tu sais, ça donne l'indication que tu voulais t'en aller. Quand tu signes ton offre hostile, il faut que t'aies les reins solides, il faut que tu fasses le vide parce que ça se peut que la suite soit très très difficile. Peu importe si on décide de s'aligner ou non sur cette offre hostile. Donc, je trouve ça intriguant. Fait que j'ai hâte de voir dans le cas de Marner si un jour ça va sortir, mais c'en a un autre qui devra produire cette année avec le contrat qui vient de signer. Là.
OK. Au dernier repêchage, c'était Capo, Kako, Jack Hughes et les autres. Il y avait vraiment un fossé entre ces deux joueurs et le reste du repêchage. Kako a été très bon à Traverse City dans le tournoi des recrues le week-end dernier. Il a marqué un superbe but en prolongation, probablement que les auditeurs l'ont vu sur les internets, comme on dit. Il y a eu la rondelle à peu près une minute avant de la mettre dedans en prolongation dans un match des mini Rangers. Je parle comme si c'était le tournoi, puis oui, des jeunes Rangers, je vais dire ça comme ça. Et Jack Hughes a réussi sa rentrée hier, François. 2 buts, dont le but victorieux avec les Devils. Les Devils qui jouaient, évidemment, de façon simultanée au Centre Bell et au New Jersey contre les Bruins. Pour un pool de hockey, puis dis-moi si ma comparaison est bonne. Moi, je pense que Jack Hughes, ça ressemble à Patrick Kane, puis le gros Kako, je le comparerais plus à Alexander Barkov des Panthers. Pour un pool de hockey, toi, on va avoir le temps de s'en reparler, mais si je te demandais ce soir de décider entre les deux pour un pool, tu prendrais lequel?
C'est une très, très bonne question, mais je pense que j'irais pour Hughes pour le... Écoute, il est un petit degré de talent peut-être supplémentaire, un petit peu mieux entouré, parce qu'écoute, les Devils ils vont avoir une bonne équipe, là, et puis je pense qu'il était déjà quand même intéressant comme club, mais avec tous les ajouts, c'est un club qui est quand même pas mal plus intéressant que les Devils des années 90. Puis tu sais, les Rangers, je pense que Kako va avoir de la glace en masse, ça c'est sûr et certain, mais j'ai hâte de voir parce que ça reste un processus qui est quand même de reconstruction accélérée. Je suis pas convaincu que les Rangers vont être si bons que ça, j'ai encore des doutes sur certains points.
Okay.
Donc, je pense que j'irai avec Hughes, mais pas avec une très grande longueur d'avance. Là. Moi, je pense qu'il y a peut-être 10 ou 15 points qui vont les séparer à la fin de la saison, mais j'irai peut-être avec Hughes par une légère avance sur Kako.
Aimes-tu les comparatifs ou...
Ben écoute, il faut que je les vois jouer un petit peu plus. Ça, c'est sûr et certain pour avoir une meilleure idée, mais oui. Puis écoute, Kako, là, quand j'ai vu son but, puis je sais pas si tu as vu ce qu'il a dit aux médias après, il dit que depuis il y a un coach qui avait dit quand il était jeune, quand on arrive en prolongation puis que tu as rondelle, il dit arrête de faire des passes. Il a fait deux fois le tour du but pour aller marquer, puis c'était de toute beauté. Okay. Mais Barkov. Barkov, c'est un joueur qui est complet, c'est un joueur qui marque des buts fantastiques, mais qui évidemment qui n'a jamais le spotlight sur lui parce qu'il joue en Floride. Donc je pense que ça pourrait être très intéressant comme comparaison. Puis j'ai hâte de voir dans 15 ans aussi. Est-ce qu'on s'est trompé? C'est qui dans le lot dans les 15-20 premiers qui va ressortir comme celui qu'on aurait dû repêcher plus haut? Parce qu'il y a bien des gens qui pensent que Cole Caulfield aurait dû sortir beaucoup plus haut. Fait que j'ai hâte de voir parce que c'est une année de très talentueuse, mais très intrigante aussi parce qu'il y avait beaucoup de joueurs dans le top 15 qui étaient très talentueux.
Je vais t'en faire une dernière comparaison avant de te laisser. T'as parlé des Devils puis t'as dit qu'ils allaient être meilleurs. Je suis entièrement d'accord avec toi. Faut considérer que cette équipe-là, depuis le repêchage, on leur a ajouté Piqué Subban, Jack Hughes et aussi Taylor Hall. Tu vas me dire, ben non, Taylor Hall, il jouait déjà là, Dan. Oui, mais c'est parce que l'année passée, il n'a pas joué de l'année. Fait qu'on prend leur saison de l'année dernière, puis on ajoute Hall, Subban, puis Hughes. Ça devient tout un club de hockey. Tu sais à qui je les comparais, les Devils, et c'est un lien avec le Monday Night d'hier, avec les Browns de Cleveland. Une tradition de perdants, et soudainement, on pense qu'ils vont être bons. Ils vont être bons, mais est-ce qu'ils vont réussir à devenir une équipe gagnante et à changer cette tradition de perdants-là?
Ouais, c'est une bonne question, puis ça va toujours rester aussi qu'il y a un point d'interrogation devant le filet. Ça, c'est sûr et certain que faut voir si on s'est stabilisé là. Puis, tu sais, ça a été comme une année en dents de scie l'année passée avec les blessures. On n'a pas performé comparativement à l'année précédente. C'est sûr que ta comparaison, au moins les Devils ont gagné un peu dans les années 90 puis début des années 2000.
Oui, ils ont gagné des coupes. Ils ont gagné des coupes. T'as bien raison. Avec Martin Brodeur, t'as raison de préciser ça. C'est pas la même tradition de perdant, mais je parlais plus depuis 10 ans, mettons.
Non, puis je veux dire, il y a des attentes, puis je pense que tous les gens qui font des prédictions, tu sais, au niveau du classement, que tout le monde voit les Devils en série cette année. Mais comme je te dis, moi, je pense que c'est vraiment entre les deux poteaux que ça pourrait changer beaucoup de choses. Mais, tu sais, c'est un club très talentueux, puis dans tous les noms que tu as nommés, tu sais, je pense que Nico Hischier est capable d'en donner plus aussi offensivement qu'il a fait l'année passée. Donc, c'est un club qui va être à surveiller. Puis comme je te dis, surtout un club que j'ai changé d'avis dans le sens où je détestais ce club-là dans les années 90, tellement c'était plate. Là, c'est un club qui était déjà intéressant, mais qui va l'être deux fois plus avec Hughes et Subban.
OK, il faut que je te laisse, mais puisqu'on parle de prédiction, rappelle-moi mardi prochain, au début de notre entretien, je vais te lancer une bombe. Je vais te nommer une équipe de premier plan dans la Ligue nationale de hockey qui, cette année, va manquer les séries.
OK, on s'en reparle.
Je te souhaite une très belle semaine, François.
Salut, bonne soirée, Dan.
Bye. François Paquette, notre chroniqueur sportif à qui on parle chaque mardi dans l'avant-match.